s'est occupé du culte ce matin. C'est une bénédiction d'avoir des nouvelles têtes et puis d'avoir la participation des jeunes. Et je souhaite qu'il y en ait de plus en plus. Ce matin, le message s'intitule « Ne crains pas, crois seulement ». Et on trouve cette parole de Jésus dans l'Évangile selon Marc, et je vais vous lire deux versets, Marc chapitre 5. C'est un chef de synagogue qui envoie chercher Jésus parce que sa fille est très très malade. Jésus est retardé pendant sa venue chez lui, et la fille décède. Et en Marc 5, 35, je lis, « Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et ce qui arrive après, c'est que Jésus ressuscite cette jeune fille. Un miracle parmi des dizaines que Jésus a opéré quand il était sur la terre. Ne crains pas, il y a tellement de craintes. Est-ce que vous avez des craintes ce matin? Le Seigneur dit, crois seulement. La crainte est l'opposé de la foi. C'est ça que Jésus nous dit ici. Plus on a de craintes, moins on a de foi. Plus on est dans la crainte, plus on s'éloigne de la vraie foi. Il y a tant de gens qui ne connaissent pas la paix que donne la foi, qui sont dans des craintes perpétuelles, dans des angoisses. Ils essayent toutes choses pour calmer leurs angoisses, mais rien n'y fait. Aucun médicament, aucun psychothérapie, aucun rien n'arrive à calmer cette crainte. Et le Seigneur dit, ne crains pas, crois seulement. Et ce matin, on va voir que la foi n'est pas une chose mystérieuse qui vous tombe dessus un beau matin, mais que la foi, nous pouvons tous la pratiquer, la voir. Je reviens un petit peu à nos peurs. Ici, on peut imaginer cet homme, ce père de famille. Sa petite fille est très malade. Il sent que c'est une maladie mortelle. Il n'avait pas les connaissances médicales, mais ils avaient quand même des médecins. Luc, un des évangélistes, était médecin. Et il sent que sa petite fille perd sa vie, elle est de plus en plus faible, elle respire de moins en moins. Imaginez cette angoisse de voir votre enfant mourir sous vos yeux et ne rien pouvoir faire. Il a entendu parler de Jésus qui fait des miracles, alors il envoie quelqu'un, vite, allez le chercher, qu'il vienne peut-être faire quelque chose pour ma fille. Et puis il attend et Jésus ne vient pas, la maladie empire et finalement il voit sa fille rendre son dernier souffle. S'il y a une chose qu'on peut craindre dans la vie, c'est ça, c'est de voir son enfant mourir. C'est de voir la mauvaise nouvelle. On vous dise, c'est trop tard. Je ne sais pas si vous avez déjà attendu à l'hôpital un proche qui était très malade ou accidenté. Vous attendez que les médecins sortent de la salle d'opération et vous disent oui ou non. Vous savez, là, vous avez une crainte qui vous prend dans les tripes. Et c'est ce qu'a ressenti cet homme et Jésus lui a dit, ne crains pas. Ce qu'il a dit est presque choquant parce que comment voulez-vous ne pas craindre quand vous êtes un père et vous voyez votre fille mourir? Mais Jésus dit, il y a autre chose de supérieur à la crainte, à la peur, il y a la foi. Et on va voir ce qu'il voulait dire. Dans le chapitre précédent, il y avait un événement aussi. Lorsque ses disciples ont été pris dans une tempête terrible. Et ils étaient sur la barque, sur le lac de Galilée, et les lacs sont connus pour avoir des tempêtes vraiment horribles. Parce que c'est tout petit, donc l'eau bouge, hein, comme si vous remuez dans un bol un peu d'eau, vous allez voir, ça va tout de suite déborder. Alors dans un lac, quand il y a une tempête, c'est catastrophique. Et là, ils étaient sur leur grande barque, hein, qui faisait plusieurs mètres de long, et la tempête se lève, et ils se sont dit, ça y est, on va tous mourir. Et Jésus, lui, il dormait sur le coussin à l'avant. C'est ce que dit l'évangile de Marc. Le coussin, c'est, on a découvert qu'à cette époque-là, quand il y avait un invité sur un bateau, on lui réservait un coussin. Et c'est vraiment ce qui donne au récit son authenticité. Ce n'est pas une légende. Il fallait savoir qu'on mettait un coussin pour les invités sur les bateaux. Et Jésus, lui, dormait. Alors là encore, on se demande, c'est pas possible, il y a une tempête horrible, on va tous mourir, l'eau rentre dans le bateau et lui, il dort. Et il se lève, il menace le vent et la mer, tout se calme instantanément et il se tourne vers ses disciples, il dit, mais gens de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Là encore, on pourrait lui répondre, mais Seigneur, on a eu peur parce que on a cru qu'on allait mourir. Seigneur, on a eu peur parce que toi, tu dormais, tu avais l'air de ne pas te rendre compte. Mais je peux vous dire que si on a Jésus dans sa barque, il ne faut pas avoir peur. Encore faut-il que Jésus soit dans votre barque, dans votre vie. Mais le Seigneur, quand il est dans votre vie, quand vous lui faites appel à lui, il vous répond, ne crains pas, crois seulement. De quoi est-ce qu'on peut avoir peur? Alors là, je suis sûr que vous pourriez m'aider à faire une liste d'un millier de choses rapidement qui font peur. On a peur d'un accident de voiture. On a peur d'avoir le cancer. On a peur du chômage. On a peur des épidémies. Aux États-Unis, hein, il y a une épidémie grave de méningite, je crois, due à un empoisonnement. On a peur des tempêtes, des inondations. On a peur d'être agressé. On a peur de rater son examen. On a peur de perdre ses enfants. Ses proches. On a peur dans l'avion. On a peur de la fin du monde le 21 décembre 2012, pour certains. Et je suis sûr que vous avez plein de peurs que vous pourriez me citer. Toutes ces peurs. Et là, on réalise notre fragilité. Même les hommes les plus forts ont des peurs inavouées. Vous savez, il y a des grands costauds qui ont peur du noir, par exemple. Ils ont horreur de se retrouver dans le noir, ou ils ont peur dans l'avion. Alors ils sont là dans leur siège d'avion, et puis ils sont tout tremblants, ça y est, on a décollé, on va atterrir. C'est pas la force physique ou quoi que ce soit, on a tous des peurs. L'éléphant craint la souris. Et là, cet homme, il avait cette peur terrible, et Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Est-ce que Jésus voulait lui dire de s'auto-persuader que tout allait bien? Crois seulement, ça veut dire, bon, tout ira bien, ma fille n'est pas morte, non, c'est pas vrai, c'est une illusion, tout n'est qu'illusion. Est-ce que c'est ça que Jésus voulait dire en disant crois? Non. La foi dans la Bible, ce n'est pas l'auto-persuasion, la méthode Coué. Je ne sais pas si vous avez appris la méthode Coué, ça a été à la mode pendant quelques années, où c'est un monsieur qui vous disait que pour vaincre toutes vos épreuves et vos difficultés, il faut vous persuader que tout ira bien. Et pour vous persuader que tout ira bien, il faut vous le répéter. Donc, les gens ont appris à répéter, tout va bien, tout va bien, tout va très bien. Non, je n'ai pas de problème. Non, mon patron ne va pas me virer. Non, je ne vais pas avoir un accident. Non, non. Et puis, si vous avez une maladie, non, je ne vais pas mourir. Et vous vous persuadez vous-même que tout ira bien. D'après vous, est-ce que ça marche? Si ça marche 5 minutes, c'est bien, mais ça ne va pas très loin. Ça ne va pas très loin, l'auto-persuasion, parce qu'au fond de nous, il y a toujours la peur qui revient. L'auto-persuasion, c'est un truc psychologique. La foi, ce n'est pas un truc psychologique. Le cerveau, d'ailleurs, est capable de s'illusionner lui-même. Il y a des gens qui, face à un traumatisme trop violent, deviennent amnésiques. Ils ne se souviennent plus de ce qui leur est arrivé parce que le cerveau a mis un voile. Nos émotions, nos sens sont trompeurs, mais la foi, nous allons voir, c'est quelque chose de certain. Ne crains pas, crois seulement. La foi dans la Bible, ce n'est pas la foi en soi-même, ce n'est pas l'auto-persuasion, c'est la foi en un être extérieur à nous et tout-puissant. Un être en qui on peut vraiment se confier. Il n'y a qu'une seule personne dans l'univers en qui on peut vraiment avoir la foi. C'est Dieu. Le Dieu vivant. On peut faire confiance aux hommes jusqu'à un certain point, mais mettre sa foi dans des hommes, c'est très dangereux. Parce que les hommes nous trompent. Mettre sa foi en soi-même. Beaucoup de gens disent, oh moi je crois en rien, moi je crois en moi-même. Et est-ce que vous êtes satisfait quand vous croyez en vous-même? Est-ce que vous avez toujours réussi, vous avez toujours été merveilleux? Combien de fois on se déçoit soi-même, au contraire? On avait des beaux idéaux, on dit, ah, je ferai ci, je ferai ça, et puis on ne fait pas ça. On dit, ah, je vais faire du bien, tiens, je vais faire une bonne action, et puis finalement, au dernier moment, on dit, hop. On se déçoit parce que nous sommes décevants. Nous avons une nature décevante, une nature que la Bible dit pécheresse, c'est-à-dire une nature qui est contre Dieu, qui est rebelle à Dieu. Et elle ne peut pas faire le bien, même celui qu'on imagine. La foi doit être en quelqu'un d'extérieur. Jésus, dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, dit aux personnes qui l'écoutent, Marc 11, verset 22, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. C'est ça la vraie foi. C'est pas en nous-mêmes, c'est pas en une église, c'est pas en un homme, mais c'est en Dieu. Est-ce que la foi, c'est une sorte de superstition? Quand Jésus dit « ne crains pas, crois seulement », est-ce qu'il lui demande de pratiquer un rite? Est-ce qu'il lui demande de faire une prière particulière, d'aller à la synagogue et là de mettre un cierge? De porter un talisman, une amulette, de prier un saint en particulier? Est-ce que Jésus lui demande tout ça quand il dit « crois seulement » Est-ce qu'il lui demande de croire aux étoiles, de croire en la nature? Non, aucune de ces choses. La foi, ce n'est pas la superstition. Il y a tant de gens qui sont pris dans la superstition. Il y a cette histoire qui m'a toujours attristée de cette actrice française Bernadette Lafont qui est arrivée au devant de l'actualité un jour parce que sa fille a disparu mystérieusement. Et pendant des semaines, les journalistes s'intéressaient où est passée la fille de Bernadette Lafont. Et elle venait sur les plateaux de télévision et elle était souriante et elle disait « Oh, je ne m'inquiète pas, j'ai confiance en sa bonne étoile ». Et en fait, elle pratiquait l'astrologie, elle croyait en l'astrologie. Et elle dit, ma fille est née sous une bonne étoile, je ne me fais pas de soucis. Et quelques jours après, on a découvert le cadavre de sa fille dans une forêt. L'astrologie, ce n'est pas la foi, c'est une tromperie. Ce n'est même pas scientifique. Mettre un cierge, ce n'est pas la foi de la Bible. Porter une amulette, un talisman, une croix, quelque chose, ça ne vous donnera pas la foi, ce n'est pas la foi. Nous allons voir ce qu'est la foi dans un instant. Mais la superstition, ça revient un peu à de l'idolâtrie. Vous comptez, vous faites appel à tout, sauf à Dieu, comme on dit en français. Pourtant, il vaut mieux faire appel au bon Dieu qu'à ses saints. Et que font les gens? Ils font appel aux saints, mais pas au bon Dieu. Ils vont prier tout, ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir, faire des pèlerinages, des prières, des dons, toutes sortes de choses. Mais s'adresser à Dieu et faire confiance à Dieu, ça c'est la dernière chose qu'on va faire. Parce que ça c'est notre nature humaine. On ne veut pas reconnaître qu'il y a un Dieu à qui on peut faire confiance. Dans le psaume 115, nous lisons cette déclaration de Dieu sur ceux qui se confient en d'autres solution que Dieu lui-même. À partir du verset 2, pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche, mais elles ne parlent point. Elles ont des yeux, mais elles ne voient point. Elles ont des oreilles, mais elles n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. À cette époque-là, des psaumes, il y avait de l'idolâtrie, il y avait des gens qui priaient des statues déjà. Des statues qu'ils avaient fabriquées eux-mêmes et ils pensaient que ces statues allaient les sauver. Et ils avaient une foi très sérieuse dans ces statues et dans ces divinités. D'abord, il est fabriqué en or et en argent, ce qui était la chose la plus chère de l'époque. Ils mettaient toute leur fortune pour faire une belle statue. Et il lui faisait un beau visage, des beaux yeux, des belles oreilles, un beau nez, une belle bouche, des mains, des pieds. Et Dieu dit, ça sert à rien de faire tout ça parce qu'il ne voit pas, il n'entend pas, il ne marche pas, il ne touche pas. Ce n'est qu'une statue et elle vous ressemble en plus. C'est-à-dire, elle ne fera pas mieux que vous. Mettre sa foi dans ces choses est vain. Il dit, Israël, confie-toi en l'Éternel, en Dieu. Le Dieu vivant. Ne crains pas, crois seulement. Mais il y a certaines personnes qui diront, mais vous, vous avez la foi, mais moi, je n'ai pas reçu la foi. Je ne suis pas contre, j'aimerais bien avoir la foi comme vous. Ça me plairait bien. Je vois que ça vous fait du bien, que vous êtes dans la paix, mais moi, je n'ai pas reçu la foi. Et je dois vous dire que c'est une erreur. Dieu veut que tout le monde ait la foi. La foi n'est pas réservée à certains élus à qui Dieu aurait donné la foi et à d'autres il ne leur donnerait pas. La foi ne vous tombe pas dessus un matin quand vous vous réveillez. Ça y est, j'ai la foi. Non, pas du tout, du tout. D'abord, nous lisons dans le Nouveau Testament, en 1 Timothée 2,4, que Dieu veut que tous les hommes, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous aient la foi, soient sauvés et connaissent la vérité. Ça ne veut pas dire que tous seront sauvés parce qu'il y en a qui vont refuser l'amour de Dieu. Mais Dieu, lui, de son côté, il veut que tous aient cette foi. Donc pourquoi il y en a qui ont la foi et d'autres qui n'ont pas la foi ? Dans les évangiles, plusieurs reprises, Jésus fait des miracles. Parfois, il dit à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés. Et très souvent, il dit à la personne, ta foi t'a sauvé. Vous retrouvez ça souvent. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça dans les évangiles. Ta foi t'a sauvé. Il ne dit pas, la foi t'a sauvé. Mais ta foi. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que tu avais une certaine foi. Et comme tu as bien utilisé ta foi, tu as été guéri ou tu as été sauvé. Nous avons tous une certaine foi. On utilise tout le temps la foi. On aime bien dire dans les églises, quand vous vous asseyez sur la chaise, quelque part, vous avez la foi que cette chaise va vous tenir. Vous vous laissez aller sur votre chaise. Vous êtes complètement détendu, j'espère. Vous n'êtes pas là en train de tenir vos muscles des cuisses en vous disant, j'espère que la chaise va tenir sous mon poids, parce que là, vous seriez vraiment fatigué. Quand vous prenez l'avion, quelque part, vous confiez votre vie au pilote et au copilote et à l'ordinateur. Combien de fois on utilise la foi? Quand on est petit, on fait confiance à ses parents, on fait confiance à ses profs. Et donc, on a une certaine foi au départ. La foi dans la Bible est la foi qui sauve. C'est une foi, c'est cette foi, mais bien utilisée, bien placée dans la bonne personne. Et ça n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus. La foi, c'est quelque chose qu'on exerce. C'est une action presque. On exerce sa foi. On saisit quelque chose. Et dans la Bible, il y a cette révélation extraordinaire que j'aime faire connaître aux gens parce que ça explique comment avoir la foi. Ça se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 17. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que veut dire cette parole de Dieu? C'est que la foi vient quand on entend la parole de Christ. Qu'est-ce que c'est la parole de Christ? C'est tout ce qu'il y a dans la Bible. Et quand vous entendez particulièrement l'Évangile qui vous dit « Je suis mort pour toi », c'est Jésus qui dit ça, hein? Je suis mort pour tes péchés, je suis ton sauveur, je veux te sauver. Quand on entend ce message, La foi, à ce moment-là, peut dire « Oui, Seigneur, j'accepte ». On a entendu notre frère tout à l'heure qui a entendu un certain temps et puis il est venu, il n'est plus venu. Et un jour, il a vraiment accepté. Il a saisi. Tant qu'il n'avait pas accepté, tant qu'il n'avait pas exercé sa foi dans le Sauveur Jésus-Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ, il n'était pas sauvé. Il pouvait aller à l'église toute sa vie, s'il voulait. Il y a un moment où il faut mettre sa foi dans le Seigneur. Et encore une fois, la foi chrétienne n'est pas quelque chose, ce n'est pas un sentiment, une émotion. On n'est pas là en disant « Oh, j'ai la foi, oh, puis j'ai plus la foi, oh, je sens la foi ». Non, on ne sent pas la foi. On l'exerce. On entend une promesse de Dieu, on lit une promesse de Dieu dans la Bible. Dieu dit « Quiconque croit en Jésus-Christ sera pardonné de ses péchés ». C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Vous lisez cette parole et vous rendez compte à quel point vous êtes pécheur et vous dites, tu dis, quiconque croit en Jésus sera pardonné. Moi, je crois. Moi, je suis quiconque. Seigneur, je crois que tu me pardonnes mes péchés. Et à ce moment-là, vous êtes pardonné, vous êtes sauvé parce que Dieu a répondu. Parce qu'il a promis que celui qui croit sera sauvé. Vous, vous avez répondu à la parole de Dieu et Dieu, il honore votre foi, il vous sauve. La foi, ce n'est pas quelque chose de très mystérieux. Il faut croire Dieu, en fait. C'est ça, la foi. Croire ce que Dieu a dit. Lui faire confiance. Et c'est là où, parfois, on a des difficultés. On est prêt à croire n'importe quoi. C'est fou, les groupes sectaires ou les religions bizarres qui existent dans le monde. Il y en a une qui sort tous les quatre matins. Mais vraiment, les gens ont des idées. Ceux qui croient aux extraterrestres ou à la fin du monde, il y en a qui ont tout vendu. Ils sont allés habiter dans ce village là-bas, je ne sais plus si c'est en Auvergne, où soi-disant ce village sera le seul épargné sur la Terre de la fin du monde le 21 décembre 2012. Ils ont tout vendu, ils habitent dans une caravane là-bas. Et si vous allez les interroger, alors la fin du monde, mais oui, c'est terrible, mais c'est les extraterrestres, toute une histoire fumeuse. Dites, mais comment vous pouvez croire des balivernes pareilles? Et quand le 21 décembre 2012 arrivera et qu'il ne se passera rien, ils vont trouver une explication. Parce qu'ils veulent croire à ces balivernes. Et il y a un choix dans la foi. Je veux croire ce que je veux bien croire. Si je suis sincère et que je me trouve face à la parole de Dieu, eh bien, je vais bien devoir croire ce que Dieu a dit, parce que Dieu ne ment pas, parce que la parole de Dieu est infaillible. Quand j'étais athée, je ne croyais pas en Dieu parce que je ne voulais pas croire en lui. Mais quand j'ai été confronté à la parole de Dieu, au message de l'Évangile, je ne pouvais plus m'échapper, je ne pouvais plus trouver d'excuses, d'explications. Et à un moment, j'ai reconnu, oui, je suis pécheur, oui, je suis rebelle à Dieu. Et oui, je crois qu'il y a un Créateur, mais je ne le connais pas. Comment le connaître ? Et le pasteur qui m'a amené au Seigneur a dit, mais crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est ce que dit la Bible, hein. C'est un verset de la Bible qui m'a cité. C'est vrai qu'il y a tellement d'hypocrisie dans la foi. Mais la vraie foi, c'est une foi où vous faites confiance pleinement à Dieu. Rappelez-vous quand votre père vous a dit, saute. Et vous, vous aviez peur. Mais c'est haut. Saute, allez, je te retiens. Mais c'est haut, c'est trop haut, j'ai peur. Saute, je suis là, regarde. Et il y a un moment où l'enfant passe au-dessus de sa peur et c'est sa foi en son papa ou sa maman qui domine sa peur et il saute parce qu'il sait que son papa ou sa maman va le rattraper. Il lui fait confiance à ce moment-là. Il n'est pas sûr qu'il va le rattraper, mais il lui fait confiance. Et il y a quelque chose un peu similaire dans la foi en Dieu. C'est que le Seigneur dit « saute », c'est-à-dire « viens à moi ». Pourquoi c'est un saut pour nous? C'est parce qu'on ne voit pas Dieu. On ne peut pas le voir. Il n'y a pas une photo, une image, un film où Dieu nous parle en disant « écoute, je suis Dieu, voilà, viens chez moi ». Il n'y a pas une maison où on peut aller le voir. Dieu est invisible. Ça n'empêche pas qu'il existe et qu'il est présent. Et même que sa présence se fait sentir. mais il est invisible. Et c'est pour nous une sorte de sceau de faire confiance en un être invisible. Surtout nous qui sommes très matérialistes, nous il faut qu'on voit et qu'on touche. Cartésien, si je ne touche pas, voilà, je suis comme saint Thomas, hein, je ne crois pas. Et j'aime bien qu'on me cite toujours saint Thomas, parce que dans l'évangile, Thomas, effectivement, ne croyait pas en la résurrection de Jésus. Dis-moi, si je ne mets pas mon doigt dans son côté, dans ses doigts, non, non. Je ne crois pas que c'est Jésus ressuscité que vous avez vu, parce que les autres l'avaient vu. Et finalement, Jésus revient voir les apôtres, et Thomas est là, et Jésus s'avance vers lui et dit, regarde, regarde mon côté, mets ta main, regarde mes doigts, mes mains, il y a les trous des clous encore. Et là, la Bible dit que Thomas est tombé à genoux, et il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Alors j'espère que vous serez comme saint Thomas. Parce que lui, il a cru finalement. Mais Jésus lui a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et la foi, c'est quelque chose, c'est un saut quelque part, mais c'est un saut pas dans le vide, pas dans l'absurde, pas dans la folie. C'est un saut basé sur la Bible. La Bible est loin d'être folle. Il y a une sagesse dans la Bible que toutes les sociétés ont utilisée. Même notre code civil, tout est basé hein, au départ sur la Bible. Les droits de l'homme, c'est basé sur la Bible. Les 10 commandements hein, sont la fondation de l'humanité. Tu ne tueras pas, tu n'assassineras pas, tu ne mentiras pas. On peut se baser sur la Bible, on peut se confier en Dieu, même si on ne le voit pas, parce qu'il s'est révélé dans l'Écriture. Alors, quand on met sa foi dans le Seigneur, il y a des fruits qui arrivent. Alors ça, on le voit, les fruits dans notre vie. Parce qu'il y a une différence entre la fausse foi et la vraie foi. La fausse foi, en général, elle est hypocrite. Elle ne tient pas longtemps. Jésus a raconté une parabole. Il a dit, il y avait quelqu'un qui semait une semence, comme ça, dans la terre. Et la semence, une partie est tombée dans les épines. Alors, elle a poussé un petit peu, et puis très vite, les épines ont étouffé la semence. Et puis une autre partie est tombée dans les rochers et elle n'a pas pu faire de racines et elle est morte. Et puis une graine est tombée dans de la bonne terre et là elle a fait un épi qui a donné et s'est multiplié. Et Jésus dit il en est de la même chose de la foi. C'est qu'il y a des personnes chez qui la graine, hein, qui est le message de l'évangile, ne porte pas de fruits parce qu'ils n'ont pas une bonne terre. C'est-à-dire ils n'ont pas un cœur authentique, sincère. Ils ne sont pas sincères avec Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église de façon hypocrite. Il y a des gens qui viennent même vers Dieu de façon hypocrite. Ce qu'ils veulent, c'est que Dieu bénisse leur projet. Ce qu'ils veulent, c'est ne pas avoir de problème. Seigneur, j'ai des difficultés, sauve-moi de mes problèmes. Mais Dieu ne veut pas nous sauver de nos problèmes. Il veut nous sauver de nos péchés. Ça fait mal à entendre. Seigneur, laisse-moi mes péchés, mais sauve-moi de mes problèmes. Et Dieu dit, non, 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 non. Moi, je suis venu te sauver de tes péchés, de ta rébellion, de ton égoïsme, ton orgueil, ta violence. Et j'en passe. Alors la vraie foi, elle, quand elle reçoit le Seigneur avec humilité, avec sincérité, elle porte des fruits. D'abord, c'est une foi qui est intelligente et équilibrée. Les gens qui ont la foi ne sont pas des hurlus-berlus qui sautent du haut des ponts avec un élastique à moitié attaché. Les gens qui ont la foi ont une foi équilibrée parce qu'elle est basée sur la Bible. Et la Bible est un sommet d'équilibre, de sagesse, d'intelligence, de compréhension du monde. La foi en Dieu est pleine d'assurance aussi. On a une paix profonde. Et même dans les pires épreuves, ceux qui ont la foi tiennent bon. Ici, on a notre sœur Alzenir. Elle pourrait vous dire que dans le cancer, la foi est plus forte que la peur. Que la foi vous permet de passer l'épreuve. Et chacun de nous peut-être pourrait dire comment la foi à dépasser sa peur. La foi aussi a du discernement. Elle ne mélange pas Jésus avec d'autres croyances. Il n'y a qu'un seul sauveur, dit la Bible, qu'un seul Dieu. Et puis la foi en Christ n'est pas égoïste, mais quand on a la foi, d'un seul coup, il y a un amour pour les autres qui vient. Un amour gratuit. On se met à aimer tout le monde. Parfois, on devient un peu naïf, c'est vrai. Tellement on aime les gens qu'on ne connaît pas et on peut se faire avoir, mais peu importe. On a cet amour qui déborde, ça coule. Ça, c'est le fruit de la foi au Seigneur Jésus. Si vous devenez plus égoïste et plus orgueilleux avec la foi, c'est que vous n'avez pas la vraie foi. La vraie foi va vous rendre humble et aimant. J'aimerais vous lire un psaume pour terminer, dans le psaume 46, qui illustre ce qu'est la foi. Quelqu'un qui a la foi et qui l'écrit dans ses psaumes. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Nous sommes sans crainte. Ça, c'est la foi. Notre monde est en plein bouleversement. Il y a les guerres, il y a la crise économique, il va y avoir de plus en plus de chômeurs. On ne sait pas ce qui va arriver dans les mois à venir. Il peut y avoir une guerre au Moyen-Orient qui déborde. Il peut se passer plein de choses terribles, mais avec la foi, cela ne nous fait pas peur. Parce que le Seigneur est souverain. Le Seigneur, s'il est dans ma vie, je ne crains même pas la mort. Parce que quand je mourrai, je vivrai éternellement avec le Seigneur. Si je dois mourir d'une maladie, qu'il en soit ainsi, c'est le Seigneur qui décide de ma vie. Mais je sais qu'il m'accompagnera jusqu'à la dernière seconde de mon existence, jusqu'à mon dernier souffle, il sera avec moi pour me donner sa grâce et sa paix. Est-ce que vous avez cette foi? Ou est-ce que vous êtes dans la crainte? Le Seigneur nous appelle tous, il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que vous êtes prêt ce matin à dire « Seigneur, je veux faire ce saut vers toi. » Oui, je veux venir à Dieu, je veux l'accepter dans ma vie, je veux que Dieu devienne mon Dieu, que Jésus-Christ devienne mon Sauveur. On va s'incliner dans la prière.